Monsieur Mermet, ici Monsieur Lacrampe. Non, c'est pas vrai, c'est André. Je vous appelle dans un bled du Maine-et-Loire, comme disait Bobby Lapointe. Sachez, Monsieur Mermet, que je me suis penché sur cette question fondamentale des Lacrampes. Il existe beaucoup de Lacrampes, beaucoup plus que vous n'imaginez, Monsieur Mermet. 403 Lacrampes sont répertoriées en métropole, 21 en Martinique. Par contre, Monsieur Mermet, 40 départements sont orphelins de Lacrampe, ce qui doit être assez frustrant.
Je voudrais soutenir tous les journalistes de France Inter. C'est un tout petit peu égoïste de ma part parce que c'est la liberté de l'information et je tiens à être, comment on peut dire, informé d'une façon juste, indépendante. Je déteste la télé, j'ai pas de télé, je vis sans télé. Nous vivons, mon mari et moi, sans télévision, c'est un choix de vie. Et France Inter, France Info, c'est encore un petit espace de liberté, surtout le tien, Daniel. Mon Dieu, pourvu qu'il soit préservé. Après ça, avec le canard enchaîné, ben, y a plus grand chose, hein. Bon, ben, bon courage à tous les journalistes, tenez le coup et vous inquiétez pas, hein. On est avec vous, hein. On vous quittera pas parce que alors, Monte-Carlo, Luxembourg, excusez-moi du peu, hein. Je vous embrasse à tous très, 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 très fort. Et monsieur Cavada, vous avez été journaliste, hein. Allez, au revoir.
Bonjour Daniel Mermet et tous les auditeurs de la Bassie, j'y suis. J'appelle de la région PACA. J'ai enseigné pendant 20 ans autour de l'étang de Berre. J'ai fait des remplacements à Martigues, Marseille, Vitrolles, Marignane, Salon de Provence. Je n'ai jamais vu en 20 ans d'enseignement un seul voile, pas l'ombre d'un voile. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi légiférer autour de quelque chose qui n'existe quasiment pas, quoi. En tout cas, qui est minime. Car le mouvement extrémiste musulman de Mohamed Latrèche est véritablement minoritaire, on l'a dit en boucle, hein, 0,6% de représentativité. À côté de ça, on va nous faire une loi qui divise tout le monde, parce que bon, personne n'est d'accord sur ce qu'il faut cacher ou montrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce voile nous cache bien des choses, peut-être, et un peu l'arbre qui cache la forêt des autres problèmes véritables qu'on rencontre à l'école. Des problèmes, j'en rencontre à l'école. Je vois pas de voile, mais des problèmes, il y en a, effectivement. Et il y en a beaucoup, et on voit disparaître aujourd'hui les surveillants, les maîtres d'internat. On sait qu'à la rentrée prochaine, il y aura 1000 professeurs en moins. Et ça, c'est un véritable problème. On va remplacer peut-être ces gens-là par des policiers, mais est-ce que ça réglera les problèmes? Et puis une jeune fille, même s'il en reste, il n'en existe qu'une, une jeune fille qui la famille impose le voile, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'intégrer ou l'exclure? Ça, est-ce qu'on doit la renvoyer toute seule devant ses bureaux? Ou est-ce qu'on doit essayer de lui montrer autre chose que l'espèce de fanatisme qui existerait, mais qui serait quand même, je le répète, archi minoritaire?
Une amie des Vosges. Information aux chômeurs. Tout à fait par hasard, j'ai appris que mes 912 jours de chômage accordés suite à ma perte d'emploi étaient réduits à 700 jours. Aucune notification ne m'a été adressée. L'employé d'ANPE m'a dit verbalement qu'ils avaient eu la consigne de ne pas les bruter et que ceux qui ont eu une lettre d'information, vu l'opacité de cette lettre, n'ont rien dû comprendre. Le trouble était voulu. 800 000 chômeurs dans ce cas. 7 mois d'amputation de prestations malhonnêtement supprimées dans le silence. Pauvres chômeurs qui attendront leur dû pour nourrir leurs enfants et qui s'étonneront de ne rien voir venir. Au pied du mur, dans l'indifférence, ils n'avaient pas le droit d'être au courant. Merci Daniel, si tu pouvais donner les adresses des associations de chômeurs.
J'étais ému aux larmes la semaine dernière par vos constats sur le chômage et mes larmes de chagrin sont devenues des larmes d'impuissance. Je suis un jeune retraité. Vous faites un constat terrible, mais qu'est-ce que vous avez comme solution? Moi, j'en ai pas. J'en cherche, j'en trouve pas. Alors, faites les constats, il y a besoin de les faire, mais essayez de nous donner des amorces de solutions, parce que par le bulletin de vote, qu'est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît?
Terrible, hein, cette observation hélas, on n'a pas de solution, on n'a pas de clé en main. On essaye d'informer un peu, de raconter des histoires et de montrer aux uns comment vivent les autres, tout simplement. C'était les messages d'aujourd'hui. On reviendra sur ces questions, Thierry. Sur le répondeur, 01 56 40 37 37. Et alors aujourd'hui, c'est une émission tout à fait exceptionnelle, un document tout à fait exclusif, le PDJC. Nous avons réussi, on n'est pas peu fiers de ça, à enregistrer un procès. Et que c'est très difficile d'arriver à enregistrer un procès. Non seulement on a enregistré ce procès, mais on l'a enregistré dans le futur. C'est encore plus difficile d'enregistrer quelque chose qui se passera. Alors là, voilà, est-ce que c'est sûr que ça va se passer comme ça? C'est toute la question, et voilà la réponse. Salut, c'est Daniel Mermet. Le procès de Jacques C. Flight number 2,
arriving from... Monsieur Chirac Jacques, contre ministère public. Faites entrer l'accusé.
Oui, monsieur le président. Monsieur Jacques Chirac est absent et la défense a quelques observations à formuler quant à son absence.
Développez.
Oui, monsieur le président, messieurs les conseillers, messieurs de la cour, vous semblez étonné de l'absence de monsieur Chirac, sauf qu'une analyse exhaustive de la procédure m'amène à affirmer aujourd'hui sans la moindre marge d'erreur que monsieur Jacques Chirac n'a pas été cité à comparaître à votre audience. Pas de citation, donc pas de saisine, donc pas de cours, donc pas de procès. En revoir et rendez-vous chez Michou. Ce d'autant, monsieur le président, messieurs, qu'à supposer même que monsieur Chirac ait été convoqué, il se trouve qu'il n'aurait pas pu se présenter à votre audience. Cela s'appelle la loi de nos députés et sénateurs. Vous savez, ces gens que nous avons élus au suffrage universel. En même temps que c'est la loi d'un certain conseil constitutionnel dont votre cour n'a rien à faire, j'en conviens. En même temps que c'est aussi la loi de la cour de cassation, c'est une juridiction dont la cour, semble-t-il, ne sait rien, mais c'est important. Il se trouve, monsieur le président, messieurs, que la chose est ainsi faite, on peut le regretter, mais c'est comme ça. En droit positif français, à partir du moment où on est président de la République et on ne commet pas d'outrage à la sûreté de l'État, eh bien, on est interdit de prétoire. Bref, un, vous n'êtes pas saisi. Deux, vous ne pouvez pas être saisi. Trois, vous n'avez même pas la légitimité de la vox populi, puisque je rappelle que monsieur le président a été élu de mémoire à 82%. Donc, je résumerai, vive le code pénal, vive la France et vive la République.
Très bien, merci maître. Madame le procureur, avez-vous des observations?
Maître, vous êtes volubile, c'est votre métier, vous êtes payé pour, et vous défendez n'importe qui. Aujourd'hui, il se trouve que vous défendez le président de la République. Je suis quand même étonnée que monsieur le président soit absent, puisqu'il a quand même dit, devant la réunion des préfets en 2001, beaucoup d'infractions ne sont même plus déclarées, car quand elles le sont, elles échappent de plus en plus aux poursuites. Il est donc l'exemple même, et il illustre bien cette phrase. Nous dirons donc que le président, soit il a peur, soit, et je le cite, il aura dit dans votre cabinet, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre.
Très bien. Après consultation de mes assesseurs, la cour décide courageusement que l'incident est joint au fond. Il sera donc statué sur votre demande à l'issue du présent procès. Et nous allons entendre le premier témoin dans la première affaire, l'affaire des frais de bouche. Alors le témoin est Monsieur Bertrand Toré. Est-ce que le témoin peut venir jusqu'à la barre ? Alors, monsieur Bertrand Thoré, vous allez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Votre profession est restaurateur.
Je confirme.
Je rappelle brièvement les faits. Une enquête de l'inspection de la ville de Paris révèle que lorsqu'il habitait à l'hôtel de ville de Paris, le couple Chirac a dépensé pour 4400 francs par jour de nourriture variée, vin non compris. Il s'agit de la consommation personnelle de monsieur et de madame Chirac et non de leurs frais de représentation. Une plainte a été déposée par les services fiscaux. Les juges d'instruction soupçonnent une affaire de fausse facture. Alors voilà, vous étiez le cuisinier personnel de monsieur Chirac, chargé de faire les courses et les dépenses de bouche. Entre 1987 et 1995, les dépenses alimentaires pour l'appartement des Chirac s'élèvent à 14,08 millions de francs, c'est-à-dire 1,408 millions de centimes. Et c'est vous qui aviez la charge de ces dépenses, alors expliquez-nous comment vous y preniez, comment l'argent entrait et sortait de votre cassette. Voici cette cassette, elle est absolument vide, hormis quelques punaises. Éclairez la cour, monsieur Thoré.
Ah, moi, je sais pas, moi, où passer l'argent.
Monsieur Thoré, pour le seul réveillon du 31 décembre 1994, toujours selon cette enquête de l'inspection de la ville de Paris, pour ce réveillon, la note s'élève à 142 159 francs, vin et cigares non compris.
Oui, c'est moi qui ai fait à dîner ce soir-là. Donc
pour 142 159 francs.
Jamais j'ai fait à manger pour 142 500 francs, c'est pas possible.
Alors vous mettez en doute l'enquête de l'inspection de la ville de Paris.
Ah non, parce que je mets pas en doute. Moi, je peux vous dire qu'effectivement, jamais... Personne ne peut manger 142 500 francs en un repas, je veux dire, effectivement. Je veux dire, je vais pas vous faire la preuve que c'est impossible.
Quelle relation vous avez gardée avec les Chirac?
Ah, moi, je peux vous dire qu'effectivement, j'ai jamais eu d'employé, d'employeur d'aussi bonne qualité. Je veux dire, effectivement, 10 ans après, ils m'envoient encore leur vie.
Je veux dire, effectivement.
Pardon?
Continuez, monsieur Thoré.
10 ans après, ces gens m'envoient encore leurs vœux, prennent soin...
Et vous, monsieur Thoré, est-ce que vous étiez attentif
à ce qui
s'est passé avec votre
caisse? Je veux dire, effectivement, madame, elle a perdu 10 kilos avec moi. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, je pense que c'était le rêve de sa vie. Donc,
à 4000 francs par jour.
Il y a un marchand de légumes installé vers la Bastille, si mes renseignements sont bons, qui a produit des factures pour 200 000 francs de factures.
Ah si, je suis désolé, ce monsieur m'a vendu des légumes.
Oui, mais dans quelle quantité, dans quelle proportion?
Je veux dire, le potage de légumes de madame. Pourquoi? Je veux dire, effectivement, c'est-à-dire un poireau de tomate, mais pas grand-chose de plus.
Bertrand Thoré, merci beaucoup. Vous nous remettez cette cassette. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder l'affaire suivante, l'affaire de l'imprimerie Sempap. Le témoin est monsieur Mordillat Gérard. Est-ce que le témoin veut bien venir jusqu'à la barre? Donc, vous êtes directeur de société, vous êtes militaire en retraite.
Affirmatif.
Vous êtes mis en examen complice de détournement de fonds publics.
Affirmatif.
Les faits, les voici. Plainte déposée pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêt. Affaire instruite par le juge Ribrol. La société concernée est la SEMPAP, Société d'économie parisienne de prestations, chargée d'assurer les travaux d'imprimerie de la ville de Paris.
Affirmatif.
Les factures payées par la ville de Paris auraient été, durant 9 ans, gonflées de 25 à 40%.
Je l'ignore.
Période concernée de 1986 à 1995, c'est-à-dire pas tout à fait 10 ans. Argent évaporé, entre 28 et 87 millions d'euros, selon les estimations, donc entre 200 et 500 millions de francs. Alors, monsieur Mordillat, expliquez-nous. On sait que l'imprimerie pour la ville de Paris est un marché considérable et il existait une régie municipale.
Ah oui, il existait une régie municipale avant. Mais quand M. Chirac a été élu maire de Paris, ce n'était plus possible. Vous comprenez, c'était une sorte de repère de socialo-communistes sous la coupe du livre CGT. Donc, on m'a chargé de faire le ménage, c'est ce que j'ai fait.
Donc, cette régie a été fermée. Et puis, c'est ouvert cette société d'économie mixte, la SEMPAP.
Eh bien oui, la politique du maire de Paris était de favoriser l'entreprise privée. Et donc, nous avons créé la SEMPAP.
Avec combien de salariés?
Combien? Mais un seul? Moi? Bien avant, il y en avait trop. Vous savez, hein, les cocos, il faut toujours être quatre pour planter un clou.
Et comment se fait-il que les frais aient augmenté de telles proportions alors que vous étiez le seul employé?
Ah mais parce que je faisais du travail de qualité. Avant, c'était salopé. Après moi, non, c'était...
Combien de sociétés il y avait derrière vous ?
Eh bien, nous avons été amenés, dans le cadre de développement de l'entreprise, à créer, je ne sais pas, 20 ou 23 sociétés.
Avec combien d'ouvriers chaque fois ?
Ah, énormément d'ouvriers, mais cela, je ne les voyais pas.
Il y avait chaque fois un directeur dans un bureau avec une boîte aux lettres et un téléphone.
Pour diriger, il faut simplement ça, un téléphone et un bureau.
Il n'y avait pas votre épouse aussi comme directrice d'une de ces entreprises ?
Madame Monique Mordilla, parmi les gérantes de ces sociétés, effectivement. Monique Mordilla.
Ma femme était parfaitement compétente pour gérer cette société. Vous savez, la compétence n'a pas de famille. La compétence, c'est la compétence. La compétence n'a pas d'intérêt. Donc, il fallait s'adresser à nos amis les plus proches, comme me disait Monsieur Pendreau. Adressez-vous à ceux qui sont avec nous. Donc, je me suis adressé à ma femme, à mon fils, à mon gendre. Enfin, voilà.
Vous avez un chromosome de direction, Monsieur Mordilla.
Je suis un militaire, madame. J'obéis.
Est-ce que vous procédiez à des appels d'offres, Monsieur Mordilla ?
Je ne connais pas l'appel d'offres. Je connais éventuellement l'appel aux couleurs, mais c'est tout. Moi, je suis un donneur d'ordres. Je donnais des ordres, on obéissait. Pardon, on exécutait mes ordres.
Alors, parmi les sociétés que vous avez créées, il y en a qui s'appelaient Paracom, Copama. Quelles étaient les vocations de ces sociétés ?
Ah bien, c'était des sociétés d'imprimerie. Paracom, ça veut dire paracommando. Et Copama, bah, c'est tout simplement commando marine parachutiste. Ça va de soi, non ?
Et l'imprimerie dans tout ça, Monsieur Mordilla ?
Mais l'imprimerie, c'était une mission, l'imprimerie. Il fallait se débarrasser des cocos et de la CGT.
Oui, ça c'est votre excuse.
Ah non, c'était mon devoir. C'était mon devoir.
Vous deviez rendre des comptes et surtout de l'argent à qui ?
L'argent ne comptait pas. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait le drapeau et c'est tout.
Alors, il y a tout de même eu deux rapports de l'inspection générale de la ville de Paris mettant en garde M. Chirac, maire de Paris, sur vos pratiques et sur vos méthodes.
Monsieur le Président, si vous me permettez, je crois que notre société se divise en deux parties. Il y a d'un côté les fonctionnaires et de l'autre côté ceux qui travaillent. Moi, je fais partie de ceux qui travaillent. Les fonctionnaires qui... n'ont rien d'autre à faire qu'être fonctionnaire, font des rapports. Alors, nécessairement, ils ont fait des rapports, ça ne m'a pas empêché de travailler.
Très bien, la défense.
On remarque qu'il y a dès lors un marché qui a été régulièrement attribué et des fonctions d'imprimerie qui ont été tout à fait légitimement remplies. Je constate que l'accusation, malgré... ses talents et sa véhémence ne sort pas de là et j'ai presque du mal à comprendre pourquoi ce témoin a été cité.
J'ai aussi beaucoup de mal à comprendre ma présence ici, en tant que militaire et en tant qu'imprimeur.
Madame le procureur ?
Tout ça nous dit toujours pas où sont passés les 87 millions d'euros que vous avez quand même encaissés.
Écoutez, ne me parlez pas en euros. D'abord, je n'y comprends rien. Ensuite, je suis contre. Alors...
Merci monsieur Mordilla. Alors, nous allons aborder l'affaire suivante. L'affaire du terrain de Bity. Alors, on va demander au témoin monsieur Maurice Limrac de bien vouloir venir jusqu'à la barre.
Bonjour la France.
Monsieur Limrac, Maurice.
Maurice, oui, c'est moi.
Demeurant à Saran, Corrèze.
Oui.
Fils de Monsieur Jean Limrac.
Jean, mon pauvre père.
Celui-là même qui a vendu le terrain à la Fondation Claude Pompidou.
C'est exact, oui.
Très bien, voici les faits.
Je vous écoute, Monsieur le Président.
Chirac Jacques est accusé d'avoir usé de son influence pour faire acheter par la Fondation Claude Pompidou un terrain situé près de son château de Bity, commune de Saran, département de Corrèze. Cet achat avait pour but de geler cette parcelle, de s'assurer qu'aucune construction ne viendrait troubler le repos et la tranquillité des époux Chirac.
Je corrobore.
L'affaire s'est passée en 1978, alors que Jacques Chirac était maire de Paris.
C'est exact, et je tiens à préciser que j'ai pas voté pour Chirac. C'est à joindre au dossier.
Depuis 1969, les époux Chirac sont propriétaires du château de Bity, à Saran, département de la Corrèze. Alors, est-ce que les Chirac viennent souvent ?
Jamais. Ils ont pu y aller. Mais ils ont été quand même souvent, hein. Mais maintenant, Madame Chirac, elle aime pas trop, puis quand elle va à Saran, elle va à l'hôtel, quoi. Comme les pauvres Français, quoi, qui ont pas le monde, les moyens.
Bien. Alors, Monsieur Limrac, on va en venir à l'affaire du terrain de Bitti. En 1978, Monsieur Chirac Jacques apprend que votre père...
Oh! Il y a mon pauvre père qui en va à dire à Monsieur Chirac, qui était en vacances à ce moment-là, qui dit, oh ben, on va construire une belle colonie de vacances pour les pauvres gars de la banlieue. Eh ben, vous savez ce qu'il a dit, le Chirac? Il a dit, oh, ben, faut pas laisser faire ça. Si ça continue, ils vont nous construire une mosquée. Ah, ça, c'est vrai, ça, je veux vous dire que c'est vrai. C'est inversé au dossier. Et il a tout fait pour racheter le terrain de mon pauvre père, qui aujourd'hui est décédé, hein, faut bien le dire. Hein. Il a dit, votre prix sera le mien, de toute façon, c'est pas moi qui paye, il nous a dit. Eh ben, alors, pour un terrain qui valait à peu près dans les 60 000 francs, mais alors, vraiment, alors, en payant très cher, hein, bon, ben, on a obtenu quand même 500 000. Hein.
En 78.
En 78, 500 000 francs. Eh, il n'y a pas de problème, hein, il paye le prix,
monsieur. Qui a acheté ce terrain, monsieur Limrac?
Ah ben, c'est pour Chirac, hein, c'est sûr, hein, c'est pour Chirac. Hein,
c'est qui, monsieur?
Il dépense jamais son argent. Ça rentre, mais ça sort jamais. Hein. Alors, il s'est dit, je vais faire cracher la Claude Pompidou, là. La fondation Claude Pompidou, c'est pour les... Et les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, puis les handicapés, comme vous. Alors, comme elle n'avait pas d'argent non plus, la Claude Pompidou, comment qu'il a fait le Jaco? Comme il était maire de Paris, il a fait voter une subvention de 500 000 francs de la mairie de Paris pour la caisse de la fondation
Monsieur
Pompidou qui allait acheter le terrain. De Bitti, est-ce que vous
et
avez
qui compris? Était le trésorier de la fondation Claude Pompidou?
Eh bien, je vais vous le donner en mille, le trésorier coup de théâtre, c'était un dénommé Jacques Chirac. Et le secrétaire général, Jacques Toubon.
Merci, monsieur Limrac. Dossier suivant, les emplois fictifs.
Alors, peu à peu, sur ce document, on reconnaît autour du président de ce tribunal, que vous avez peut-être déjà reconnu, on reconnaît des gens, des journalistes, comme Frédéric Pagès, comme Hervé Liffrand, le procureur, qui ressemble beaucoup à une comédienne qui s'appelle Huguette Trécos, des avocats qui ressemblent à de vrais avocats. L'accusé n'est pas là, il est excusé. Mais on vient de voir quelqu'un comme Lim, un comédien, Bertrand Roté et Jean-Bernard Pouy, bien connu également, Gérard Mordillat et beaucoup d'autres personnages extrêmement troubles.
Monsieur Udiani Michel, vous êtes né le 18 juin 1964 à Ajaccio.
Ouais.
Fonctionnaire municipal.
Employé municipal, monsieur le président.
Monsieur Udiani Michel, je vous demandais de jurer, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, lever la main droite et dire je le jure.
Si c'est la droite, je veux bien. Je jure.
Bien. Alors, dans l'affaire des emplois fictifs... Monsieur Jacques Chirac est accusé d'avoir usé de son influence pour faire employer par la ville de Paris des personnes travaillant pour le RPR. Monsieur Udiani, vous êtes puériculteur dans une crèche du 5e arrondissement. On peut vous demander quel a été votre parcours professionnel.
Bien sûr, monsieur le président. En 82, j'ai commencé mon service militaire à la gendarmerie, donc jusqu'en 86.
Vous avez redoublé, monsieur Udiani.
Attention, j'ai gardé les copains chez les gendarmes, quand même. Donc après, en 86, belle année. Donc je suis devenu gendarme d'élite pour la protection rapprochée du couple Chirac. En 89, je suis devenu prêtriculteur. Prêtriculteur dans une crèche du 5e arrondissement, comme monsieur le président l'a juste dit.
C'est quoi la puériculture pour vous?
Bah, c'est un petit peu la sécurité très jeune maintenant, parce que très jeune, il délinque maintenant. Hein. Je leur apprends aux enfants plein de trucs, comme reconnaître la physionomie. Je leur apprends à savoir d'où viennent les tirs, à reconnaître...
Monsieur Udiani, sur plusieurs photos publiées dans des journaux versés au dossier, on vous voit à plusieurs reprises accompagner le couple Chirac dans de nombreux voyages. Pour la seule année 1995 aux États-Unis pendant 10 jours, à La Réunion pendant 8 jours, à la Martinique et à la Guadeloupe pendant 12 jours, en Pologne pendant 3 jours, en Espagne pendant 4 jours, 4 fois en Allemagne, au total 17 jours. Et il est noté que vous n'avez pas été une seule fois absente de votre travail. Éclairez la cour.
Ce que je ne comprends pas, c'est de la diffamation photographique.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre salaire comme puériculteur?
Approximativement.
Oui, oui, oui.
À peu près 6500 euros.
Très bien.
Je ne comprends pas ce que je fais là, hein. Je ne comprends pas. C'est quoi un emploi fictif?
Non, mais la défense ne comprend pas non plus pourquoi vous êtes là, monsieur. Vous semblez présenter toutes les qualités pour vous occuper des enfants. Et moi, ce côté éducatif musclé, j'avoue que ça m'a convaincu. Hein. Merci.
J'ajouterais que, ayant des enfants et des jeunes garçons, ils seraient ravis, absolument ravis, d'avoir un éducateur comme vous qui leur apprendrait le tir et la visée, la façon de se protéger, la façon
d'attaquer.
Et je crois qu'il faut qu'il y ait plus de puériculteurs comme vous. Je vous remercie.
Grâce à Sarkozy, la sécurité fait son retour dans ce pays. J'en suis ravi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ces messieurs dames. Voilà.
Très bien, Monsieur Udiani, on vous remercie. La Cour souhaiterait que soit dressé un portrait psychologique de l'accusé. Aussi, nous faisons appel au docteur Letellier, qui va bien vouloir nous rejoindre. Docteur Letellier, qu'est-ce que vous avez à déclarer à la Cour?
Tout d'abord, je voudrais rappeler que le président Chirac est le fils unique dans une famille de 20 enfants. Mais... cas particulier, et c'est important pour comprendre sa personnalité, il est en fait, et c'est dramatique, le second enfant, puisque avant lui, il y a eu une petite fille qui s'appelait Jacqueline. Donc nous avons ce qu'on appelle en psychanalyse le phénomène de Lazare, il est le deuxième enfant après une petite fille disparue. Comme c'est le deuxième enfant après une petite fille disparue, toute l'affection de sa mère s'est reportée sur lui, et elle le définissait d'ailleurs comme l'enfant du miracle. C'est important de comprendre ceci pour comprendre le reste. L'enfant du miracle, c'est un enfant qu'on choisit. Un enfant qui rentre de l'école, et lorsqu'il rentre de l'école, sa mère a mis sur la table de la cuisine une petite sucette dont elle a insisté pour que soit dépiautée afin qu'il n'y ait pas de geste inutile. Par la suite, le petit Jacques, donc qui est un fils unique, va avoir les défauts d'un fils unique. Quels sont les défauts d'un fils unique? Fils unique moi-même, fils de fils unique, petit-fils de fils unique. Il y a ce désir permanent d'être aimé. Je peux en témoigner. Et donc, sans ce désir permanent d'être aimé, il y a la volonté de plaire. Et qui dit plaire à tout le monde. Et c'est ce qui explique, chez Jacques Chirac, cette capacité parfaitement convulsive de passer d'une opinion à une autre, d'un costume à un autre, sans jamais, finalement... se sentir gêné par ce basculement psychologique. C'est important à le comprendre, autant que la sucette au moins. Par la suite, il y a, et je crois qu'il faut le dire, comme dans tous les fils uniques, cette incapacité à confronter, à s'affronter au frère, à la sœur. Donc, il va développer une personnalité par l'adoption de mentors. Qui sont ces mentors ? Alors, il y a bien sûr Madame Mère, dont j'ai parlé, qui finalement ressemble terriblement à son fils, à moins que ça ne soit l'inverse. Et puis, il y a plus tard le général Brosset. Qui est le général Brosset? Le général Brosset est un homme qui, le 14 août 1944, au soir, à la tête de la première division, entre dans la maison des Chirac pour demander l'hospitalité, et là, le petit Chirac, 12 ans, nous sommes en 44, il est né en 32, découvre cet homme... cette figure paternelle très puissante pour laquelle il va immédiatement sentir une adhésion totale et ce sera le début de cette période qu'on va appeler fanamili, fanatique militaire, qu'il conduira après Sciences Po à faire son mur, à faire son mur. Voilà. Non, parce que certains ne comprennent pas ce que veut dire son mur, donc je vous rappelle que c'est quand même un cadre militaire très strict, et à adopter une posture de fanatique vis-à-vis des questions militaires. Le troisième personne qui va compter pour lui, et je m'excuse de devoir consulter mes notes car j'ai peur d'écorcher son nom, c'est un professeur, sans le sou, d'origine russe, un russe blanc, monsieur Delanovitch, que les parents de monsieur Chirac vont finir par héberger car il voulait apprendre le sanskrit. Delanovitch, c'est lui qui va finalement donner à Jacques Chirac ce goût qui va lui rester pour l'art chinois, pour la civilisation perse et de manière générale pour les arts primitifs. Ce sont donc ces trois mentors qui, aujourd'hui encore, sont présents dans son esprit et qui gouvernent sa vie. Mais il faut préciser également que c'est un garçon soumis. Un garçon soumis à son père, le rude François Chirac, un homme difficile de caractère, souvent absent, ce qu'on peut appeler, dans le langage rude de l'aristocratie, un parvenu. Et oui, car François Chirac est en fait le fils d'un instituteur, et il a commencé sa carrière comme employé de banque à Clermont-Ferrand, mais rapidement, il monte à Paris où il devient administrateur de société. Et là, dans un très vaste appartement, puisqu'il peut héberger M. Delanovitch, il est malheureusement très absent, mais il dirige son fils d'une poigne de fer. Et ce fils, comme il le trouve assez peu viril, il l'envoie sur un cargo. Cargo qui part sur les flots. Et comme nous sommes en été, nous sommes à Dunkerque, en 1956, le petit Chirac ne veut pas débarquer. Il veut rester en mer, devenir capitaine. Que fait le père? Il va le chercher, il le force à descendre. On voit donc qu'on a affaire à un caractère d'insoumis, mais d'insoumis docile. C'est un cas assez complexe au niveau conflictuel, puisque malgré une volonté de devenir explorateur, de devenir capitaine au long cours, de devenir archéologue, tous ces désirs fondamentaux du jeune Chirac, de Jackie comme l'appelle sa maman, sont contredits, sont compromis, sont annihilés par un père difficile. Cette affaire du cargo révèle bien le personnage et permet de mieux comprendre pourquoi plus tard il deviendra explorateur, mais autrement. Que va-t-il explorer? Eh bien, il va explorer quelque chose qu'il ne connaît pas, mais qu'il convoite énormément. C'est ce qu'on peut appeler la famille Chaudron de Courcelles. La famille Chaudron de Courcelles, c'est un monde en soi. Un monde en soi pour un petit-fils d'instituteur de Corrèze. Et la famille Chaudron de Courcelles, dont il épousera la fille, Bernadette, en 1956, à l'église Sainte-Clotilde, dans la petite annexe, malheureusement, car les parents de la famille n'ont pas voulu qu'il se marie dans la grande chapelle. C'est une manière de l'humilier, de lui faire sentir quel était son rang, et de lui répéter régulièrement « Jacques, vous n'auriez jamais dû rentrer dans la famille ». Eh bien, Chirac va essayer de combiner cette exploration d'un monde qu'il ne connaît pas, tout en essayant en permanence, finalement, de s'y affronter. Donc il cherche à la fois la particule et l'argent que représente la famille Chaudron de Courcelles et simultanément il la provoque par une attitude extrêmement violente avec des mots qu'on a cités, prononcés à l'occasion de la rencontre avec Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'elle me veut, la ménagère? Que je mette mes couilles sur un plateau? Voilà une expression qui ne départ pas dans la bouche de Jacques Chirac, car en effet, on voit bien que c'est par cela qu'il s'affirme, par le langage, par la violence. Et je crois que c'est un des éléments importants de sa personnalité. Alors, pour conclure, c'est un personnage qui a malgré tout, bien que on puisse trouver des dimensions schizophréniques dans sa capacité à mentir, mais le mensonge, que serait la vie sans lui, comme disait Anatole France, à peu près. Giscard, pour parler de sa prépension à pouvoir mentir, disait par exemple, vous prenez Chirac devant un pot de confiture. Il a les mains dans la confiture, la bouche pleine de confiture. Le pot est devant lui, il est ouvert, le couvercle est posé. Et vous lui dites, mais Jacques, vous mangez de la confiture? Que vous répond Chirac? Il dit, non, monsieur le président, je ne mange pas de confiture. Eh bien, cette capacité en permanence, fort bien résumée par Giscard, c'est le fondamental. Il n'y a pas de mensonge, car il n'y a pas de contre-vérité. C'est une autre vérité. C'est ailleurs. C'est une autre facette du monde, c'est un univers parallèle où il n'y aurait pas de confiture, pas de peau de confiture, pas de traces sur les doigts. Et c'est vrai aussi, quelque part, sous les vêtements nous sommes nus, et sur les doigts de confiture, il n'y a pas de confiture non plus, les atomes ne se touchent pas. Je crois qu'on peut résumer ainsi les personnalités de Jacques Chirac. Quant à savoir s'il est responsable pénalement, je pense qu'on peut répondre oui, l'homme est sain d'esprit, malgré des tendances à la schizophrénie et à la paranoïa, mais qui ne l'est pas. Sa vision de la vérité n'est pas très éloignée de certains confrères du barreau que je connais. Et donc, finalement, je dirais que cet homme a de fortes chances de pouvoir se réhabiliter. La famille est aisée, peut lui payer un infirmier de manière permanente. Et je conclurai ainsi en disant que, sans doute, la possibilité non seulement de sa réhabilitation, mais de sa réinsertion sociale sont fortes. Et je demande à ce qu'il en soit tenu compte dans ce procès.
Merci beaucoup, docteur Letellier. Bien gagné. La salle.
Alors, beaucoup d'autres affaires ne seront pas abordées au cours du procès de Jacques C. Par exemple, les affaires des voyages, 77-95, plusieurs millions de francs de dépenses en liquide pour des voyages personnels. Plainte a été déposée pour détournement de fonds publics, donc c'est plus qu'une affaire de temps pour que justice soit faite. Et puis, il y a l'affaire des HLM, du domaine privé de la ville de Paris. Il y a beaucoup d'autres affaires, mais enfin, dans ce procès de Jacques C, qui est une pure fiction, quand même, on apprend certaines choses.
Et nous allons aborder le dixième dossier, la dixième affaire, celle de l'affaire des faux électeurs. Et nous allons demander aux témoins de bien vouloir venir jusqu'à la barre, monsieur Henri Cueco. Monsieur Henri Cueco.
Monsieur le Président.
Vous allez prêter serment, jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, lever la main droite et dire je le jure.
C'est fait.
Je le jure.
C'est fait.
Monsieur Henri Cueco, vous êtes veuf.
Depuis quand? Ça alors, quelle nouvelle! Bon. Vous voulez me déstabiliser, monsieur le Président.
Vous êtes agriculteur.
Enfin, je l'ai été, oui. Plus précisément, je ne suis pas non-agriculteur. Pas tout à fait la même chose.
Bien, vous demeurez à Meymac?
En principe, oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire Meymac?
C'est une petite ville avec un clocher. Des rues qui montent et les mêmes rues qui descendent quand on les prend dans l'autre sens. C'est très bien.
Est-ce que vous diriez que c'est un village caractéristique de la Corrèze?
Ah, absolument.
Monsieur Henri Cueco, voici les faits. Une plainte a été déposée pour fraude électorale contre Jacques Chirac concernant les élections municipales de Paris en 1989.
Et alors? Je ne suis pas au courant, mais rien de tout ça ne me choque. Des vrais électeurs, c'est des électeurs qui vous sont favorables. Des faux électeurs, à plus forte raison, alors je vois pas ce que ça change. En tout cas, moi je ne suis pas un faux électeur. Vous me voyez, je suis en vrai. Eh bien, quand je vote, où que ce soit que je vote, c'est en vrai. Je ne me vois pas en faux. Non, vraiment.
Monsieur Cueco, vous nous avez dit habiter à Meymac en Corrèze et vous avez fait une description très convaincante de cette petite ville. Mais quelle est votre adresse précise?
Ah, eh bien, écoutez, en ce moment, mon adresse n'est pas très précise. J'ai tendance à circuler, c'est selon mes emplois, qui ne sont pas fictifs. D'ailleurs, on m'avait écrit sur un papier ce que je devais répondre. Il y a écrit « emploi fictif », non.
Est-ce que vous n'avez pas exercé la profession d'électeur professionnel, monsieur Cueco?
Ah, attendez. Non.
Pourtant, on vous connaît plusieurs adresses, monsieur Cueco.
Ben, ce sont des adresses de proximité. Lorsque je dois voter dans le troisième... Autant avoir un logement dans le troisième.
C'est très juste, monsieur Bouton. Êtes-vous électeur en Corrèze aussi?
Pas en ce moment.
Mais votre femme, oui.
Comment ma femme? Elle va mieux alors.
Pour toutes les élections, oui. Elle subit le phénomène chevènement.
C'est quoi, madame?
La résurrection, monsieur. La résurrection.
Merci pour lui.
Êtes-vous, oui ou non, un faux électeur?
Ah non, un vrai. Où que je passe, je vote vraiment. Dites-moi ce que ça pourrait être un faux électeur. Non, je ne comprends pas la question.
Bien, alors y a-t-il des observations, madame le procureur, des questions?
Oui, monsieur Cueco, vous voulez dire que vous avez participé à un genre de république bananière du fin fond de votre Corrèze?
Oh, je ne dirais pas ça. Je dirais que, dans l'ensemble, c'est pas vraiment une dictature, sinon une dictature améliorée par la corruption.
La défense?
Oui, monsieur Cueco, vous nous avez indiqué que vous ne pouviez pas être un faux électeur. Et je crois que vous avez sollicité de la Cour qu'on vous explique ce qu'était un faux électeur. Monsieur le Président, vous a-t-il donné une réponse ou madame le procureur vous a-t-elle donné une réponse?
Non.
On peut donc en conclure que le concept de faux électeur n'existe pas.
Le concept, non.
Bien. Donc...
Très bien. Pour le réquisitoire, la parole est à madame le procureur.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, nous avons à juger aujourd'hui un homme par contumace, un homme chargé des plus hautes responsabilités de l'État et qui ne prend pas les siennes en étant présent ici et maintenant, nunc et hodie. Mesdames et messieurs, c'est pas de la délinquance, c'est du Zola pour fête patronale. Je vous demande, monsieur le Président, mesdames et messieurs du jury, si là, on ne tombe pas un peu dans le côté rapia d'un couple décrit dans les romans du 19e siècle. Et rien ne se perd dans la boîte aux biscuits, puisque madame ramasse même les pièces jaunes. Alors, condamnons-le à 115 ans de réclusion criminelle, pour avoir le temps de méditer sur cette affaire, de compter euro après euro, centime d'euro après euro, tous les sous qui lui sont passés par la main. Et demandons au bon docteur Grubler, qui sait si faire de grands miracles en matière de santé, de le préserver encore 115 ans au début de son incarcération, afin qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa peine.
Merci. Alors, la défense a la parole, maître Moineau.
Mesdames et messieurs, messieurs des renseignements généraux, jusqu'à présent très discrets, mais qui ont pris des notes très précises, qui serviront à nous distraire quand nous nous retrouverons à Fleury-Mérogis. Vous avez assisté à un procès, mais c'est un procès en réalité médiatique, car vous l'avez bien vu, dès que l'on va dans les détails... Eh bien, la réalité judiciaire, vous en avez vu un aperçu, rien ne transparaît. Et bien sûr, rien ne transparaît parce qu'il n'y a rien au dossier. C'est la phrase consacrée, je la prononce ce soir. Qu'est-ce qu'un procès médiatique? Eh bien, un procès médiatique, c'est celui de la rumeur. Ce soir, nous avons considéré que Chirac était super voleur. Il y a 20 ans, on aurait jugé ici, dans les mêmes circonstances, facho Chirac. Il y a 10 ans, on aurait jugé crétin Chirac. Et il y a 3 ans, on aurait jugé super menteur. Alors, revenons un petit peu en arrière pour voir quelle est la valeur de ces jugements. En 1974, je me souviens, ma mère me disait, j'étais pas grand à l'époque, Chirac n'est pas nazi, mais il est quand même plutôt de ce côté-là. Ça a été mon éducation politique, elle était mitterrandienne, elle l'est toujours d'ailleurs. Elle ne se remet pas de sa mort. C'est dire que j'ai un passif lourd pour défendre Chirac ce soir. Alors, Chirac et l'argent, dans ce procès médiatique, on a vu les médias se trompent régulièrement, se sont toujours trompés, mais il faut quand même répondre. Alors voilà, super voleur, le gentleman carambouilleur, eh bien il a volé la vedette à facho Chirac, à crétin Chirac, à super menteur. Demain, on jugera sans doute... Macho Chirac, mégalo chichi, super saligo, peut-être mieux super salopio, parce que ça fera une double allitération en S et en P. Et Et me voilà sur l'argent, l'argent qui rend fou, disait Mitterrand, sans doute en pensant à son ami Roger Patrice Pelat ou au nouvel appartement de Jack Lang, place des Vosges. Cet argent qui, avec Christian de la Malène, circulait à Paris avant Jacques Chirac, qui, avec Gaston Defer, naviguait à Marseille, qui, avec Pierre Mauroy, fleurissait à Lille, et que l'on trouve dans toutes les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes de France, et dans les communautés urbaines, les départements et les régions. Donc, sur le sujet l'argent et la politique en France, nous procéderons à l'étude d'un cas particulier, Chirac-Jacques, qui nous intéresse d'autant plus ce soir que nous sommes 80% quand même à l'avoir élu président. Alors, ces problèmes, à titre personnel, Chirac les a réglés une fois pour toutes, en épousant Bernadette Chaudron de Courcelles, richement dotée, plutôt qu'une quelconque Guylaine écuelle des Batignolles. Pour Chirac, l'argent, c'est pour la politique. Mais c'est vrai que pour lui, la politique, c'est toute sa vie. Alors, examinez sa vie et regardez la vôtre. Et demandez-vous si ces tribunaux ne sont pas des tribunaux de la morale. Parce que il est un petit peu énervant, ce Jacques Chirac, quand même. Secrétaire d'État à 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez à 30 ans? Député, puis trois fois ministre, premier ministre à 42 ans, monsieur l'assesseur, maire de Paris à 45 ans, madame le procureur, président de la République à 62 ans et à 69 ans, monsieur le président. Lui a bénéficié d'un appartement de 1000 mètres carrés au cœur de Paris, sans se fader les agents immobiliers, ni la lecture de Paris Boum Boum, Dieu sait que c'est pénible, ou du particulier à particulier, c'est encore pire. Il a joui, messieurs les membres du jury, des charmes de 207 femmes, pour un fabuleux plaisir de 621 minutes. Il a voyagé 261 fois à l'étranger, sans jamais avoir été victime du surbooking, ce qui lui donne suffisamment de miles pour faire 39 fois le tour de la Terre. Il a des photos souvenirs avec George Bush, comme vous, c'est vrai, comme vous, mais ces photos à lui ne viennent pas du magic Photoshop de l'aéroport. Et aujourd'hui, plus énervant encore, il vit dans un hôtel particulier du 8e arrondissement avec jardin domestique et surtout, possibilité de garer la voiture dans la cour. C'est agaçant, je le reconnais. Heureusement, ce n'est pas un de vos proches, parce que le succès de ses amis est bien plus pénible que celui de ses ennemis. Mais attention, Jacques Chirac n'est pas arrivé là par miracle. Il a serré dans sa vie 280 337 mains, dont 83% étaient moites. Il a embrassé 23 345 retraités, dont 21 250 venaient de manger leur chocolat de Noël. Il a aussi embrassé le culte de sa femme et caressé le cul de plusieurs milliers de vaches en les appelant par leur prénom, et sa femme aussi. Alors les hommes politiques travaillent, ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir, ils travaillent pendant les week-ends et les vacances. Ils l'ont choisi, ils l'assument. Mais cette activité, il lui faut de l'argent, il lui faut beaucoup d'argent. L'argent pour la politique, il en faut. Il y a les cars, les militants, les tracts, les brochures. À l'occasion des fêtes de Noël, quant aux champs, inondent vos boîtes aux lettres de promotion sur le foie gras de Hongrie. Ça lui coûte en frais d'impression et de distribution à Auchan environ 1 euro par prospect. Eh bien, les prospects de la démocratie, les électeurs, bénéficient d'un budget alloué aux partis politiques qui n'est pas supérieur et qui est aussi d'un euro par prospect démocratique. Les Français ne veulent pas payer le prix de la démocratie. Ils préfèrent plus de tarama sur leur canapé de Noël et moins de débats républicains. Et ce sont ces Thénardiers franchouillards qui prétendent reprocher aux causettes de la politique la collecte des moyens nécessaires au fonctionnement régulier de la démocratie et des institutions. Jacques Chirac donne de grandes réceptions, justifiées par ses hautes fonctions. Et eux, les Thénardiers, ils comptent les petits fours et les papiers des petits fours. Et ils comparent le nombre d'olives livrées le matin avec le nombre de noyaux recrachés le soir. Jacques Chirac, oui, c'est vrai, il mange énormément, peut-être pas 4000 francs, mais il mange, oui, il mange, il invite. Et tous, ils mangent ensemble, avec chaleur et générosité. Et eux, les Thénardiers, tapis dans les cabinets, demandent à la justice de peser ses excréments. Eh bien, si c'est là leur plaisir, il y a pour eux à la sortie un seau, des gants et un pèse-caca. Un terraillon. Pour qui? Pour tout ce qui sort du fion. Quant à nous, nous autres, regardons la réalité en face. Oui, oui, Jacques Chirac est coupable. Coupable d'être un homme politique et non un froid technicien incapable de gagner les élections. Ce n'est pas Barre, ni Balladur, ni Delors, ni Aubry. Oui, Jacques Chirac a fait sienne la maxime de Jean-Baptiste Botulle, le grand Jean-Baptiste Botulle, qui disait que la transparence est à la démocratie ce que la pornographie est au sentiment. Oui, Jacques Chirac incarne l'énergie de la volonté. Il peut dire tout et son contraire, cacher l'essentiel et montrer ses couilles aux journalistes pour leur montrer qu'il n'y a pas toujours loin du mythe des couilles à la réalité des testicules. Ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit quand même. Oui, Jacques Chirac règne, doyen des chefs d'État et du gouvernement, en Europe et en France, maître du jeu politique depuis que Jospin a été renvoyé au vestiaire et qu'il a décidé de s'y enfermer. Pour y faire quoi? Personne ne sait. Pendant que Jospin, qui avait donné aux Français les 35 heures à la couverture médicale universelle, commence enfin à comprendre que la solidarité, c'est la charité sans les remerciements, Chirac fait croire aux Français qu'ils ne débandent jamais. Oui, Chirac sait que la politique est l'art d'obtenir l'argent des riches et les suffrages des pauvres sous prétexte de les protéger les uns des autres. Cet homme politique est sans équivalent. Il y aura dans la Ve République deux périodes, avant JC et après JC. Devant le mystère qu'il incarne, nous devons en appeler à la dernière forme de sacré qui reste dans notre société, l'onction du suffrage universel. Vous pouvez le juger, vous devez le juger, mais je demande alors que tous les Français de plus de 18 ans soient convoqués comme jurés pour rendre au mois de mai 2007 une décision juridiquement et politiquement incontestable. Vive la République, vive la France!
Alors, il faut être malin là-dedans pour connaître les vrais avocats des faux, les vrais comédiens des faux comédiens. Voilà, c'est l'anti-France vaincra une bande de joyeux lurons et luronnes qui s'étaient réunis ce jour-là à Paris, au divan du monde, et oui, en public, pour ce procès de Jacques Chirac, dont vous attendez évidemment, je m'en doute bien, l'épilogue.
Alors nous n'allons pas attendre 2007 pour prendre notre décision. Aucune démagogie ne nous arrête ce soir. Et vous allez pouvoir juger. Vous allez pouvoir juger immédiatement l'accusé. Nous avons disposé dans la cabine qui est derrière vous un applaudimètre. C'est un appareil qui, comme vous l'avez déjà compris peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, permet de mesurer l'intensité des applaudissements. Et nous avons une équipe de techniciens en présence d'un huissier qui sont dans cette cabine obscure que vous ne voyez pas et qui sont donc prêts à opérer en écoutant vos applaudissements ou vos sifflets à la question suivante. Vous applaudissez immédiatement après que j'ai énoncé la question. Attention. La question est la suivante. L'accusé est-il sincère? Deuxième question. L'accusé se fout-il de nous?
Voilà, Frédéric Pagès, Christophe Clerc, Hervé Liffrand, Claire Dublier, Dominique Fonfrède, Hervé Le Tellier, Jean-Luc Lim, Henri Cueco, Jean-Bernard Puy, Bertrand Rotté, Marie Borowski, Michel Gianni, Gérard Mandia, Huguette Drecos. Il y avait aussi Cabu, il y avait aussi Wozniak, il y avait aussi Kier Leroux et quelques autres dessinateurs ce soir-là. Voilà pour le procès de Jacques C. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. Le répondeur, c'est Christophe Humbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Les choix musicaux, c'est Coyen Guyen. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Il est 18h15 sur France Inter. Réclame.